J'ai un animal. Un animal qui me rattrape quand je vacille, qui vient battre des ailes dans mes nuits. Un animal qui, soudain, remplit mes ciels. J'ai un animal avec moi. Un animal qui se tient sur mon épaule quand la nuit est trop sombre, quand la peur s'invite trop près, trop fort. Un animal pour adoucir d'un battement d'ailes l'angoisse du monde qui s'enlise, la poisse des jours sans horizon, les angoisses qui courbent la carcasse, les éclats dans la voix. J'ai un animal, des rivières et des marécages, des nids et des cocons de soie, espiègle et doux. Animal de l'eau vagabonde qui danse, joue, sauvage. Animal des steppes, des terres arides, à la peau dure, écaille, soleil. Animal des chemins buissonniers, des terriers, des tunnels, des galeries, de la terre et des petits cailloux. J'ai un animal qui relie. Ce texte, c'est le début d'un long poème qui s'appelle « J'ai un animal », écrit par Gwenola Morizur, illustré par Irénée Penazzi. Et c'est un petit livre qui est sorti, qui vient de sortir dans la collection Graines d'ours chez l'éditeur L'Aïe des ours, qui est un très très bon éditeur de poésie. Donc si vous voulez découvrir ce petit objet, je vous invite à découvrir ce livre. En tout cas là, vous écoutez On lit quoi nous. On lit quoi nous, c'est l'émission des littératures pour la jeunesse. Je suis avec Madame Véro. Bonjour Véro.
Bonjour Monsieur Simon.
Je suis également avec Lucille. Bonjour Lucille.
Bonjour.
Et je suis avec Philippe, mais qui n'a pas de micro, mais qui nous fait toute la régie comme d'habitude. C'est déjà la 68e émission dans l'Iquanou. Eh oui Véro. Hein,
on va commencer à voir la voix qui...
On ne les fait pas, hein,
qui
mais
chevrotte,
quand même,
là.
C'est quand même pas mal. Un jour, on fera la 100e, ça sera chouette.
Oula.
Non, comme d'habitude.
On fera vraiment une fête, là.
Oui, comme d'habitude, on va parler de littérature jeunesse. On va parler de la littérature jeunesse en toute sa grandeur, donc des tout petits jusqu'aux plus vieux petits, les plus grands petits.
Plus vieil humain aussi.
C'est ça. Donc on verra tous les genres comme d'habitude. Et puis il y a pas mal d'actualités dont on va parler aujourd'hui, des prix, encore des prix.
Et toujours des prix.
Voilà, des gens qui sont mis à l'honneur, enfin des gens dont on est très content qui sont mis à l'honneur. Mais comme d'habitude, on va commencer avec de la musique. Et comme là, c'est l'émission d'avril, dans un mois pratiquement exactement, il y a un festival en Mayenne qui s'appelle Les Trois Éléphants. Et on va continuer à découvrir la programmation. Cette fois-ci, j'ai choisi plutôt des groupes moins connus, des groupes qui vont être à découvrir. Par exemple, le dimanche 18 mai, en fin d'après-midi, vous pourrez découvrir Astral Bakers. Astral Bakers, c'est l'histoire de quatre musiciens qui se sont retrouvés, qui font une musique entre le folk, le grunge, mais soft, un peu à la Nirvana, mais très très soft, un peu comme un concert unplugged de Nirvana ou Big Thief. Voilà, vous allez voir, c'est très très beau, c'est très doux, parfait pour une fin de festival. Ça s'appelle Astral Bakers et on écoute Beautiful Everything.
Feel shame.
C'était donc Astral Bakers et je suis sûr que ça va être un super concert. Donc retenez votre dimanche après-midi 18 mai aux Trois Éléphants. C'est gratuit. Donc voilà, c'est le concert du lendemain où vous pouvez vous reposer dans l'herbe, dans la place Saint-Allègre. Enfin, ça va être très très bien. Et tout au long de l'émission, on va découvrir comme ça des groupes un peu moins connus mais qu'il faut aller voir en festival.
C'est bien.
Si on parlait un petit peu de l'actualité.
L'actualité.
Rature de la jeunesse. Notre slogan est toujours aussi bien, pourri. N'est-ce pas? Eh bien, il y a une grosse actualité rature de la jeunesse cette semaine, ce mois-ci. Ça vient de tomber, puisque les prix sorcières, par exemple, viennent d'être annoncés. Alors, vous savez, les prix sorcières, moi, je tiens pas mal, parce que, finalement, ce sont les librairies sorcières spécialisées jeunesse de France et l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France, qui choisissent les livres qu'ils leur plus dans l'année. Et il y a 6 catégories, avec des jolis noms un peu décalés aussi. Donc par exemple, il y a la catégorie Carrément Beau Mini. Et cette année, le vainqueur, c'est 7 comptines d'oiselles et d'oiseaux de Sarah Chevaux chez Thierry Magnier. Et ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait présenté il y a 6-7 mois. C'est un tout petit coffret, tout mignon, avec dedans 7 tout petits livres, un peu comme les mini-libris de Bruno Munari. Mmh. Et des petites comptines faites par Sarah Chevaux. Sarah Chevaux, on adore son travail, c'est toujours...
Tout joli.
Ouais, c'est toujours très très beau. Puis là, c'est vrai que ce petit côté mignon, là, ce petit coffret, comme la petite bibliothèque de Pierre Lapin, enfin, les petits objets qu'on a envie de lire. Et puis après, on retrouve le graphisme de Sarah Chevaux. Et puis les comptines sont très très belles, toujours autour de l'univers des oiseaux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait utilisé, il y a une bande-son qui a été créée autour de ces comptines, et qu'on peut lire donc avec la bande son, donc c'est vraiment très très beau, c'est un très beau choix. De toute façon, je crois qu'il n'y a que des très beaux choix. Un livre qu'on a adoré, ça c'est le vainqueur de la catégorie Carrément Beau Maxi, donc c'est les albums pour un petit peu plus grand, c'est Un Abri d'Adrien Parlange, aux éditions de La Partie, on l'avait présenté aussi sur cette émission. Je sais que Lucie, c'est un livre que vous avez beaucoup aimé.
Oui, il y a un travail de couleur qui est magnifique, à chaque page une nouvelle couleur. Colorama est super beau.
Bah, Adrien Parlange, il aime beaucoup travailler comme ça, soit sur les formes, soit sur la colorimétrie. Enfin, y a un côté presque affiche en fait, dans son travail. On dirait de la sérigraphie, ça n'en est pas, mais il y a vraiment ce côté de travail de la couleur.
Très graphique.
Ouais, qui est magnifique. Et donc, c'est un très beau livre. Un livre en plus qui fait penser un petit peu à des ouvrages d'accumulation, un peu comme La Moufle ou comme...
De randonnée un peu des pistes de répétition.
Comment c'était La balançoire d'un... C'est pas Enzo Mari, mais peut-être Enzo Mari,
oui,
je sais plus.
Oui, peut-être, ouais.
Enfin voilà, moi je pensais aux architectes italiens comme Munari, comme Mari. Enfin, je trouve que c'est des gens qui l'ont sans doute un petit peu inspiré. Et c'est vraiment très très beau. Ensuite, pour les carrément passionnants mini, donc ça c'est plutôt les romans pour les plus jeunes, on va dire, on est très contents parce que c'est encore un livre qu'on a présenté. C'est L'étoile de mots de Yeon-ju Choi, donc un bouquin coréen publié aux éditions Helium. Et vous vous souvenez, c'est un tout petit livre entre l'image et le texte qui ne font qu'un, qui paraît d'une mignonitude absolue.
Très délicatesse aussi.
L'histoire de mots qui va aller rechercher cette étoile qui sourit.
Mais c'est presque de la méditation aussi, parfois. Mmh. Enfin, ça donne envie de méditer.
Ah bah moi, je préfère ça au Petit Prince. J'ai rien dit.
Oui, bah, là, je vous rejoins complètement. Et je veux parler d'un monsieur qui disait la même chose.
C'est un conte philosophique, mais qui, du coup, a beaucoup plus de sens
avec
à mes yeux.
Avec un petit chat, en plus.
Ah, je sens que vous craquez pour les petits chats. Oui. Voilà. Non, c'est vrai qu'il est magnifique. Puis l'objet en lui-même est hyper réussi, avec cette petite couverture, ce petit doré.
On a envie de l'avoir dans sa poche tout le temps.
Exactement. Ensuite, bah, on va quelque chose de plus grand. Effectivement, c'est la catégorie carrément passionnant maxi. Donc ça, c'est pour les grands. Et c'est un Italien qui a remporté le Grand Prix avec La plus grande de Davide Morozzinotto. C'est un roman qui est publié chez à l'École des loisirs dans la collection Medium. Alors là, si vous voulez un vrai roman d'aventure avec du combat, avec des histoires d'amour, des trahisons, de l'amitié, ça se passe en Chine, sur les mers de Chine. C'est un vrai roman de piraterie avec une femme au centre de cette histoire. Elle est vraiment un côté badass en plus qu'elle porte.
Qui ne vous a pas laissé indifférent.
Ah non,
apparemment.
Elle l'envoie.
Oui.
Et franchement, c'est une super belle épopée. En plus, il y a ce côté roman historique dans la Chine du 19e siècle. Mmh. C'est un roman, on plonge dedans et on n'en sort jamais. Donc, c'est un très très bon choix encore. Bravo, les sorcières. À l'École des loisirs. Chez Medium.
Ah bah oui.
Voilà. Et il nous reste les deux collections un petit peu particulières. Donc, il y a carrément Sorcière Fiction. Donc là, c'est Mon nom est Billy des Nuages, publié chez Maison Georges. Et c'est Eva Ofredo qui a écrit et dessiné ce livre. Alors ça, c'est un très beau livre, un peu décalé, avec un graphisme vraiment super. Moi, j'adore le dessin d'Eva Ofredo. On l'avait découvert dans pas mal de bouquins qu'elle a fait, notamment avec Alex Cousseau. Mmh. Voilà, déjà chez Maison Georges et puis chez d'autres éditeurs. Et elle a ce côté très graphique aussi. Hein, très, et puis, elle a quelque chose dans l'épure aussi de son travail, de son dessin, qui est vraiment très, très chouette. Et puis, ça nous raconte cette histoire de Billy. Hein, Billy qui, là aussi, c'est une vraie histoire d'aventure. Hein, il va vivre mille choses. C'est à la fois doux, c'est à la fois un cow-boy comme on aimerait en voir, parce qu'il a beaucoup d'émotions. C'est pas du tout la représentation du cow-boy classique. Voilà. Et puis, on apprend aussi des choses. Enfin, c'est un ovni qui est absolument
juste génial. Le titre aussi est très beau.
Très beau, ouais.
Mon nom est Billy des Nuages. C'est vrai que c'est la classe, quand même. Moi, j'aimerais bien m'appeler Billy des Nuages.
Simon des Nuages.
Ah ouais. Maintenant, vous m'appelez plus que Simon
D'accord,
des Nuages.
D'accord, monsieur Simon des Nuages.
Et le dernier prix, c'est la catégorie carrément sorcière non-fiction, donc les documentaires. Et c'est un très beau documentaire qui a été récompensé. C'est Qu'est-ce qu'une frontière de Goodall et Aerang. C'est publié aux éditions de La Partie. Deuxième prix pour La Partie, décidément. Après, quand on fait du beau travail, on est récompensé. C'est normal. Et Qu'est-ce qu'on frontière ? Bah, c'est un documentaire vraiment, j'ai envie de dire, un peu fondamental en ce moment, hein, qui nous rappelle...
Tout à fait. C'est une très bonne question.
Ce qu'est une frontière réellement, mais au-delà de la définition, ce qu'il y a derrière, en fait. Qu'est-ce que la représentation d'un pays ? Comment et les auteurs prennent des exemples un peu en Europe. Comment une montagne peut être une frontière ? Comment un mur peut être une frontière ? C'est évidemment un livre qui est ultra d'actualité et qu'il est nécessaire de faire circuler dans les mains de plein de gens. Voilà.
Ça ne doit pas être facile de choisir quand même.
Non.
Par rapport à la richesse de la littérature jeunesse.
Non. Bah, vous savez que c'est en fait, ils travaillent comme ça pour ce prix. C'est deux commissions qui se rencontrent, une commission de libraire, une commission de bibliothécaire, qui amassent des lectures tout au long de l'année et qui, à chaque fois, vont choisir des ouvrages sélectionnés ou alors voir que des collègues parlent d'ouvrages comme ça. Et puis, comme ça, la liste évolue tout au long de l'année pour arriver finalement à une liste d'une quinzaine de titres. Puis, 5 titres, ce sont les 5 titres qui seront en compétition finale. Et là, tous les libraires de l'association vont voter. Une représentation des bibliothécaires vont voter. Et c'est là que les prix vont être nommés. Donc c'est un vrai travail de fond qui dure toute l'année, en fait.
Ça, ouais,
donc, parce qu'effectivement, sur la veille, sur tout ça, c'est vraiment important de garder un œil sur toute la production tout au long de l'année. Donc c'est pour ça que c'est un prix qui est toujours très, très chouette. Et puis le deuxième événement, si on reste dans les prix... Oh, mais que je suis heureux.
Oui, j'ai vu.
Mais que je suis heureux.
Je vous ai vu exploser des
doigts. Ah non, je saute.
Ah oui, on
ne
vous tenait plus.
Ah là là là, mais c'était la folie. Il n'y a pas très longtemps, il y a même une semaine maintenant. Une semaine, exactement. Nous avons appris que le nouveau prix Astrid Lindgren, donc le prix Astrid Lindgren, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu le prix Nobel de la littérature jeunesse. En fait, c'est remis en Suède par un jury suédois, comme le prix Nobel. Il est fortement bien doté, puisque en fait le lauréat ou la lauréate à peu près une somme de 500 000 euros, donc c'est quand même super bien doté. Et surtout, c'est une reconnaissance internationale très importante, puisque généralement les lauréats et lauréates, en fait, après, leur œuvre va être diffusée dans le monde entier, puisque les éditeurs vont acheter les droits et compagnie. Et là, vous savez pas quoi, vous savez pas qui. cette année. C'est Marion Brunet qui a gagné, qui a été récompensée. Et moi, je suis tellement content parce que Marion Brunet, en fait, c'est une autrice que... En fait, je suis rentré dans le milieu de la librairie, elle commence à écrire.
Ah donc oui, vous avez des vies parallèles.
On s'est rencontrés un peu, voilà. En plus, on s'est vus, on est, voilà, humainement, on est assez proches.
Et vous avez le même âge en plus.
On a le même âge, tout ça. On partageait plein de trucs en commun. Et puis ces livres m'ont fait grandir en tant que libraire. Donc voilà, c'est un parcours que je suis particulièrement. Et de l'avoir remporté ce prix international, pour moi, c'est. Je suis tellement heureux pour elle.
C'est un petit peu votre consécration aussi.
Ah, pas du tout.
De veilleur. Non, mais de veilleur.
Non, mais pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment.
Mais oui, non, je plaisante. Elle,
mais c'est surtout voir l'évolution de son écriture, l'évolution de son parcours, les livres qu'elle a écrits aussi chez les grands. Enfin, c'est. Voilà, je suis très, très heureux. Et puis, c'est une œuvre qui est finalement encore jeune. On en parlait un petit peu tout à l'heure en micro, mais c'est chouette aussi de récompenser une autrice qui n'est pas en fin de carrière, mais qui est en pleine carrière. Et ça, moi, je trouve que c'est un encouragement qui est superbe.
Une magnifique reconnaissance, quoi.
Et de toute façon, ce prix a quand même... c'est la deuxième Française qui le reçoit.
Et on commence à en parler en sachant qu'Astrid Lindgren, c'est la créatrice de Fifi.
De Fifi, ouais.
Précise pour
Fifi Brunbassier, oui, tout à fait.
Donc voilà, qui est un des grands, grands personnages de la littérature jeunesse. Donc,
Ah bah, c'est une super belle récompense.
Donc voilà, il y a vraiment...
Donc on est trop content. Donc voilà, on voulait le dire. Donc lisez Marion Brunet, c'est l'occasion de se plonger si vous ne le connaissez pas dans son œuvre. Marion Brunet, c'est Frangine, donc c'est toute la première période qui était la période Exprime chez Sarbacane, donc qui a grandi aussi avec Exprime, avec les premiers livres publiés par Thibaut Bérard. Donc Frangine, qui était sorti parmi les premiers Exprime, puis Dans le désordre, moi qui m'avait vraiment marqué. Cette histoire de gamins qui sont dans un squat et puis tous pour des raisons différentes. Le côté très politique de l'œuvre de Marion Brunet, parce qu'à chaque fois, elle met en scène des jeunes qui sont en situation soit de rébellion, soit de colère. En tout cas, ils luttent contre quelque chose et elle montre toujours que les luttes sont utiles. Elles sont au service des autres, constructives, avec en plus souvent ces histoires d'amour qui viennent ou d'amitié qui sont toujours présentes. Voilà,
avec
toujours...
un grand, grand réalisme aussi.
C'est des personnages qui sont...
Ils parlent vraiment de la vie...
Ouais, de la vie de tous les jours, quoi.
Toujours d'actualité.
Ouais. Parce que même dans sa dernière trilogie qui s'appelle Ilos, donc qui est une dystopie, on est en colle à l'actualité. Oui. C'est-à-dire que c'est une dystopie qui... Donc on est censé être dans le futur, mais on est déjà dans le présent, en fait. À part le fait que Marseille est sous les eaux, finalement, il n'y a que cet élément-là qui est vraiment de la dystopie. Tout le reste, on y est déjà, quoi. Et ça, elle le fait très, très bien. Et d'ailleurs, il y aura le troisième tome de la trilogie Ilos qui sort là dans un ou deux mois, donc qui va clore cette trilogie. Donc lisez ses romans réalistes, lisez sa dystopie, lisez ses romans pour adultes.
Est-ce qu'il y a un phénomène similaire au Goncourt pour les éditeurs de Marion Brunet, par exemple, comme il y a eu pour Mourleva, alors pas aussi grand, j'imagine, au niveau des ventes, mais...
Alors, pensez surtout à l'international que ça va bouger pour elle. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cercle français, ça remet en avant son œuvre, et puis les libraires vont sans doute remettre un petit peu en avant, donc il y aura un petit peu de ventes, mais c'est pas ça qui changera sa vie. Par contre, je pense que les éditeurs qui ont les droits... vont pouvoir vendre massivement en fait ces droits à l'étranger, et c'est donc une reconnaissance internationale qui peut se créer. Ça veut dire aussi être invité à l'étranger, enfin voilà. Donc il y a vraiment, je pense que ce prix, il a un focus international en plus, nous les Français, on n'est pas très très bons dans la vente de droits des textes, des romans. Il y a peu de romanciers français qui sont traduits à l'étranger. Ce genre de prix permet je pense de faire découvrir ces œuvres là, quoi.
Donc, susciter des traductions.
Donc on est trop contents.
Super. Bon,
bravo Marion. Voilà. Allez, maintenant on va s'attaquer à la présentation plus classique en fait de nos nouveautés, hein, parce qu'on parle beaucoup de nouveautés. Et on commence avec les tout petits. Et Lucille, vous avez craqué sur un album pour les tout petits.
Oui, c'est le Violet Jardin. Donc c'est un album de l'autrice Clémence.
Saba.
Et de l'illustratrice Laura Kienzler. C'est chez le Diplodocus et c'est le sixième tome de la série Couleur Jardin.
Qui sont tous écrits par Clémence Saba.
Voilà. Et donc ce très bel album avec une belle violette en couverture.
C'est tellement beau qu'on a l'impression de la sentir.
Oui, je disais, ça sent la violette en fait. Mais à l'intérieur.
Les iris.
Nous présente du coup la violette en fleurs au printemps. après un hiver passé qui était assez rude. Et alors, on va découvrir cette belle fleur avec toutes ses racines. Et l'album, en fait, va jouer vraiment avec l'enfant pour être assez interactif. On va devoir compter les petites graines, compter les fourmis qui dispersent ces petites graines et voir, en fait, tous les insectes, les animaux qui vont cohabiter avec ces fleurs. Et c'est très beau, c'est un travail de peinture et de collage aussi qui donne beaucoup de relief à ces illustrations. Et voilà, on aime beaucoup, c'est vraiment très coloré. Il y a des jeux aussi de découpage dans les illustrations.
Il faut savoir que dans cette collection-là, Clément Sava fait toujours le texte. Par contre, quasiment à chaque fois, c'est une nouvelle illustratrice qui propose une façon de travailler différente aussi. Et c'est vrai que là, moi, je ne connaissais pas Laura Kindler, mais c'est vraiment très, très beau.
Et là, c'est quoi ? C'est une chanson ? C'est une recette ?
À la fin, on retrouve une recette de bonbons à la violette. Alors, ça donne très envie.
Mais qu'on peut faire. On peut faire nous-mêmes des bonbons à la violette.
Exactement. Avec un peu de sucre. Il faut cueillir la violette.
Des vraies violettes.
Partons à la cueillette des violettes. Oui. Merci, en tout cas, pour ce très bel album. Évidemment, amis dans les Quanous, vous connaissez le Véron Vrac, hein, le Vrac à Véro.
Véron Vrac, c'est permanent.
Eh bien, on va aller un petit peu plus loin maintenant, parce que elle a décidé aujourd'hui de nous faire une sélection de livres pour les tout petits. Ça s'appelle le Vrac à bébé. Bébé en vrac, Véro en vrac. C'est le Vrac à bébé.
Le Vrac à bébé, le Vrac à Véro bébé. Enfin, bon, bref. La promenade, les papillonnes, ma doudou. Trois petits livres. Alors, je pèse mes mots du plus grand illustrateur, auteur-illustrateur jeunesse vivant. Alors, ça n'est pas moi qui le dis. C'est Télérama. J'ai pas regardé le nom de la dame ou du monsieur de Télérama qui dit ça, mais c'est Télérama. Donc, je le dis parce que je le pense un peu quand même.
Ah oui, quand même.
Moi, j'ai du mal, j'aime pas classifier comme ça, mais je présente rarement Ponty, Claude Ponty. Je conseille à tout le monde d'aller le voir et de donner ses livres à leurs enfants. C'est bizarre.
Si
ça va. Et de laisser leurs enfants vous expliquer ces livres, ça va très bien se passer. Et après, vous serez conquis. Voilà.
Moi, j'ai toujours Claude Ponty. Il est d'abord adopté par les enfants avant
exactement.
Les adultes.
Exactement. Moi, c'est mon expérience, donc pas de problème. Alors évidemment, on a souvent l'habitude. Une année, un Ponty, très souvent, fin d'année, comme ça. Souvent un très grand à l'italienne.
Moi, ces dernières années. Ces dernières années,
c'est vrai.
Il cherchait, en fait.
Il y a des
livres avec des cartes, des comme ça. Et là.
Donc, il renoue avec un format qu'il avait avant, avec Tromboline et Foule Bazar, des poussins,
c'est Blaise. Les petits livres, en fait.
Et là, c'est des petits livres à l'italienne aussi. Et on est avec le petit héros, qui était une espèce d'écureuil. Je ne sais pas trop ce que c'est.
C'est pas un poussin ?
Non, c'est pas un poussin. Oh il n'y a pas de plume, il y a du poil. et donc, il s'appelle Oulibouli. Il y a des E à la fin, donc peut-être que c'est une Oulibouli, on s'en fiche
Oulibouli
complètement.
Il était déjà présent dans des albums.
Alors, Oulibouli était là déjà sur des plus grands albums, mais là, c'est ces petites aventures quotidiennes. Et les textes, comme d'habitude, bon là, évidemment, c'est Claude Ponty. Souvent, je lève les yeux au ciel, vous savez bien, quand je vois un Claude Ponty arriver en disant oh, encore Claude Ponty, c'est dingue. Et à chaque fois, je suis complètement séduite parce qu'il y a de la vraie nouveauté à chaque fois, de la vraie fraîcheur. Je suis envoûtée, quoi, envoûtée. Et là, cette petite Oulibouli a découvert une doudou bien abîmée dans un grenier et elle s'en empare et elle l'adopte. Elle adopte complètement, c'est le grand amour. La nuit, ma doudou dort avec moi dans mon lit de ma chambre. Et même si ce n'est pas mon lit de ma chambre, on dort toujours ensemble. Ces phrases paraissent un petit peu simples. Elles sont simples, c'est ça qui fait leur force aussi. Et elles sont très fortes. Ce n'est pas mon lit de ma chambre, ça veut tout dire quand je suis ailleurs. Mais lui, il ne va pas dire ailleurs, il va dire mon lit de ma chambre. Donc voilà, tout l'amour qu'elle a pour sa doudou, elle l'emmène en promenade. Elle n'oublie pas aussi d'emmener le parapluie, c'est très important. Elle sort promener son parapluie et sa doudou. Et la pluie a été courte et très forte et de belles grandes flaques d'eau sont restées pour splitcher. À pleine plouffée et surgicouillée à fond les grenouilles de flaque en flaque et en flaque. C'est ça que j'aime bien, de flaque en flaque et en flaque, au cas où ça se fait. Et Oulibouli claque couille et resplétchouille dans la gadoue. Sa doudou se coiffe en bout debout. Enfin voilà, je continue. Vous voyez, ces mots qui dansent, qui chantent, qui rock'n'roll partout, qui sont parfois d'une poésie, parfois on s'arrête sur un terme parce que ça nous touche au cœur directement. Et un troisième petit qui s'appelle Les Papillonnes. Et là, il y a des papillonnes qui vont rendre visite à Oulibouli. C'est un festival de couleurs, de tendresse, de chaleur. De chaleur et de pluie. La pluie est très présente chez Claude Ponty. C'est magnifique. Magnifique,
message d'amour de Madame Véro pour Monsieur Claude Ponty.
Hop, cache, cache, bisous de croquis chez sans dessus dessous. Croquis, je l'ai déjà présenté, on l'a déjà présenté.
C'est lui qui faisait les petits albums chez Sarbacane, et hyper mignon
oui,
avec ses gros personnages.
Voilà. Et on est toujours avec ses personnages, avec ses couleurs très vives. Et là, c'est un livre animé de croquis qui parle de bisous et qui parle de ce petit garçon ou cette petite fille, je ne sais pas, on s'en fiche, qui, dès qu'elle ouvre une porte, paf, il y a plein de gens en train de se faire des bisous. C'est complètement dingue, c'est presque indécent. Hein. Oh là là, dès qu'elle dit « Ah, c'est dégoûtant, il y en a marre. »
Dans l'arbre, là.
Dans l'arbre, c'est des oiseaux qui se font des bisous. Là, c'est des... Comment on appelle ça? J'allais dire des plombiers, c'est pas ça. C'est des techniciens de tunnels.
Qui vont dans l'égout.
Et qui font des bisous. Donc, tout le monde se fait des bisous. Les petits vers de terre très proches et les martiens très loin font des bisous. C'est un petit bonheur de drôlerie, de couleurs, de pêche, c'est drôle, dessus, dessous. Et puis, on a envie de se faire des bisous une fois qu'on a lu ce livre. Hein,
c'est... Et il vient de sortir aussi un livre qui s'appelle « Tout le monde aime jouer à la dinette ». Et je pense qu'on le présentera là dans les prochaines émissions, qui est très, très drôle aussi.
Je ne l'ai pas encore découvert.
Et ben voilà.
Le cache-cache bisou. Ensuite, nous prenons le train avec Camille. Avec Camille prend le train. De Anna Ribbing et Cécilia Aikilay. je sais pas quelle nationalité.
Suédois, je pense.
Suédois. Donc peut-être le « est » aussi, comme en allemand. Et on est chez Cambourakis. Camille prend le train. Donc c'est un...
Une série.
C'est le début d'une série.
Enfin, non, elle a été sur le vélo.
J'avais déjà vu Camille.
Elle faisait
du
vélo.
Ouais, voilà. Je voyais Camille. Pareil, une petite histoire très tendre, très, très sympa, avec des couleurs un peu d'automne, rousses, vertes, parfois sombres. C'est vraiment très chouette. Et là, Camille va monter dans le train. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va la suivre selon les arrêts, selon les découvertes qu'elle fait par la fenêtre. Elle est avec son chien. Mais au bout d'un moment, en tant que parent...
Ah.
Je me dis, mais elle est toute seule, Camille, dans son train.
Je me suis dit exactement
que
pareil.
Que va-t-il lui arriver? Et à un moment, quand même, on voit une espèce de touffe de cheveux, là, ici. Là, touche de cheveux, là, comme ça. Parce qu'on comprend, on la voit descendre du train, elle arrive avec son papa. Et elle n'est pas toute seule, Camille, mais tout le focus est sur elle.
C'est vachement bien fait, parce que je me suis dit exactement pareil en le lisant. Je dis, mais c'est vachement bien et tout ça. Puis, mais il n'y a pas de parents, cette famille. Elle est en train toute seule.
Non, je vais écrire à Cambourakis.
Le point de vue est très, très chouette. Parce
je trouve ça très intéressant. Parce que l'enfant aussi est un peu livré à lui-même dans... Je pense qu'on
c'est
a
pas
tous...
le sujet du livre.
Non, mais on a tous rêvé aussi peut-être de prendre le train de façon un peu
comme une
le
grande.
Plus tôt possible, comme un grand, comme une grande. Alors, ensuite, nous avons « Ça fait peur ou ça fait pas peur » de Ingel P.
Arrhenius.
Excusez-moi, chez Marcel et Joachim. Joachim, mais Joachim aussi, parce qu'on dit Joachim du Bellay. Donc un petit cartonnet qui vous permet de choisir vos peurs. Vous savez, quand les médecins ils disent, vous avez mal de 1 à 10, vous dites à quoi. Ben là, c'est pareil, vous avez peur de combien à combien? Et de combien avez-vous peur de l'araignée, du hérisson? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui ne fait pas peur? Il y a des choses assez improbables. Un escargot, il y a des gens qui ont peur des escargots, ça peut arriver. Et c'est vrai. Et donc, c'est vraiment... Et je trouve, pour des tout-petits, pour fêter Halloween, ça peut être assez sympa pour jouer avec la peur, jouer avec les émotions liées à la peur.
C'est un peu le même principe que les livres d'Elo, avec le principe de la petite roue qu'on tourne.
Oui,
oui,
c'est vrai, oui. Je trouve vraiment ça intéressant.
Très bien.
Très, très chouette.
Allez, on monte un petit peu en âge.
Ah
ben,
tu t'as mis tous les vrais quand même.
Ah, le vrac album maintenant, tac, c'est le verrou en vrac.
Et puis là, j'amène
un grand livre. Oh là, il est grand celui-là.
Avec Les éléphants de Franck Bordas et Les grandes chez les grandes personnes.
C'est un très grand livre.
Ouais, c'est un très, très grand livre.
C'est presque la taille d'un... C'est presque la taille de verrou.
Ouais, je vais pas l'ouvrir parce que ça fait...
C'est une petite verrou. C'est un grand livre. Pardon.
Alors, où j'ai mis ça? Voilà. Et ça s'appelle Avec les éléphants. Donc, j'ai déjà tout dit sur Franck Bordas, tout ça, voilà. Et
c'est la photographie.
Je pars du tout petit Ponty au grand format. Que de la photo au départ, et on rentre dans le quotidien des éléphants, on est avec eux. Ça qui est intéressant sur ces photos sublimes, pleines pages, et ben, je veux voir des bébés s'approprier ce genre d'éléphants. Je l'ai mis en bébé moi aussi. Enfin, je voudrais tester auprès des bébés. C'est vrai qu'à la fin, nous avons une double page documentaire très très précise sur les éléphants. Mais,
c'est beau surtout. Et Franck Bordas, c'est un photographe galeriste aussi. Je crois qu'il a une galerie même carrément. Parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres artistes qui étaient, publiés dans la galerie Franck Bordas. Donc je me suis dit, ça va être le même.
Et Franck Bordas, c'est un rapport avec Bordas qui faisait partie des éditeurs de ma jeunesse?
Je ne sais pas. Bon. C'est un photographe. C'est ça qui est le plus important. Quand même. Et c'est publié
chez les grandes personnes qui nous surprennent à chaque fois. Alors, un livre est un livre est un livre. Alors, voilà, moi, pour moi, c'est le meilleur documentaire que j'ai pu voir, une partie documentaire, sur le livre. Qu'est-ce qu'un livre? Mais c'est surtout le point de vue de Mathilde Jamin, Denis Gombert et Lille Louis, aux éditions Courtes et Longues. C'est de nous montrer un livre vivant, de montrer comment le livre est lié à la nature, est issu de la nature, que ce soit par son papier, par le cuir, par plein de choses de la nature, et aussi à la forme d'un corps humain aussi, parfois quand il est ouvert près de ce livre, alors je vais pas retrouver la page mais je vais juste l'ouvrir, quand il est ouvert comme ça on voit un homme à côté qui est assis, les jambes écartées comme ça par terre et les bras comme ça, comme un livre ouvert. Donc là, associer le livre à un être humain, le rendre vivant, plein d'informations documentaires très fiables à l'intérieur, des illustrations très, très colorées et très très chouette, un peu proche de la BD aussi. Des textes passionnants, on remonte sur l'histoire du livre. Et c'est génial. Et ça fait comme La Vache qui rit, sauf que c'est un livre, est un livre.
C'est pas du fromage, quoi.
C'est pas du fromage.
C'est un livre. Un petit dernier?
Ah ben, c'est La Piscine Magique, vous me l'avez laissé là. Oh, j'ai pas de temps, là, pour La Piscine Magique. Rebelote avec La Piscine Magique, elle est sortie en 2017.
J'allais dire il y a plus de 10 ans, non?
Et
il y a
moins de 10 ans. J'ai les infos de 2017.
Non, mais c'est bien.
Et
un classique de chez Didier Jeunesse.
De chez Didier Jeunesse, de Karl Norak et Clotilde Delacroix, qu'on aime beaucoup. Et on s'était beaucoup amusé avec, énormément. Et là, ils ont enrichi ce livre, ils ont augmenté ce livre en mettant du son. Donc c'est pas le texte qui est raconté, c'est du son, c'est un univers sonore, des ambiances sonores de ce livre où le roi Lion a une piscine, et la particularité de cette piscine, c'est vous plongez dedans et vous pensez à quelque chose, vous dites très fort ce que vous voulez avoir. Alors là, il y a la grenouille qui veut une mare, donc la piscine se transforme en mare. Il y a
l'ours qui veut du miel.
Du miel, il plonge dans le miel. Et la girafe, elle a toute petite voix, donc elle saute, mais elle n'a pas eu le temps de dire son mot. Et il n'a pas été entendu, donc elle tombe dans le miel de l'ours. Donc ça, c'est un bazar. Et puis, il y a la lionne. Alors, une petite mention spéciale pour la lionne, parce qu'elle parle comme ça.
Bah, c'est la reine.
Ah ouais, elle se la pète, mais elle se la pète. C'est une horreur, mais elle est irrésistible. Et puis elle va plonger dans la piscine, je ne vous dis pas la fin, mais elle va prononcer un mot qui... C'est une superbe fin. Voilà.
N'est-ce pas? Et donc, voilà. c'est pas le premier album qu'ils font comme ça. Hein. Ils ont déjà fait le loup gris qu'ils ont mis en son.
Ah oui.
De la même manière, avec des ambiances.
Comment ai-je pu rater ça?
En fait, ils le faisaient déjà dans leur collection classique, en fait. Ouais. Comme Gallimard l'avait fait aussi avec Paco.
Oui.
Et là, c'est Didier Jeunesse qui va chercher son fond classique et qui permet de mettre...
Ça, c'est génial.
C'est bien parce que ça s'adresse aussi
aux
plus
âgés. Parce que Paco, j'ai déjà essayé en lecture, c'est génial. Donc, vraiment...
C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'accompagner dans la lecture des petites puces.
Il faut s'entraîner un tout petit peu avant pour être synchro. Autrement, c'est super.
Eh ben merci, Véro. C'était un très beau vrac, un long vrac, un grand vrac, mais c'était un beau vrac, un très beau vrac. Si vous avez aussi craqué sur quelques albums, j'ai l'impression, un notamment, je sens que celui-là, vous avez envie de nous en parler.
Oui, alors c'est le nouvel album de Julie Delporte. Julie Delporte qui est connue aussi pour faire de la BD adulte. Elle avait écrit notamment Corps vivante et Moi aussi, je voulais l'emporter.
C'est trop beau.
Qui est très beau, oui. Et alors, cette autrice, elle est de Saint-Malo et elle vit au Canada. Et ici, donc, c'est l'album Grandes Oreilles qui est paru chez La Pastèque, qui est vraiment trop adorable et qui a des... J'adore toujours le dessin de Julie Delporte au crayonné et un travail de couleur aussi qui est vraiment super beau, qui est très doux avec pas mal de contrastes aussi de couleurs qui est très vivant. Et alors c'est l'histoire d'une enfant qui s'appelle Sam et elle a cette enfant a une chienne qui s'appelle Léontine, c'est un basset, alors le chien avec des très grandes oreilles et chaque nuit ses grandes oreilles en fait vont réchauffer les petits pieds de Sam, mais un jour Sam va vouloir dormir chez un ami. Et Léontine va se retrouver toute seule à la maison, va beaucoup s'ennuyer et va...
Puis personne ne veut prêter ses pieds pour qu'elle les réchauffe.
Non, plus personne ne veut de Léontine, elle n'a plus besoin de ses grandes oreilles. Mais peut-être que sa copine va revenir bientôt. Et oui, c'est vraiment adorable comme histoire et vraiment de très belles illustrations.
Ouais, et puis c'est marrant de voir Julie Delporte qu'on avait connue vraiment... un peu incisive sur les adultes,
oui, adulte.
Enfin, vraiment quelque chose de très adulte, quoi. Oui, là, arrivée dans le milieu de la jeunesse avec
un
crayonné hyper beau. Mmh. Et puis, c'est très doux, c'est, voilà, c'est sur l'amour entre un enfant et son animal. Et un animal.
Et j'aime beaucoup aussi, elle glisse des petits clins d'œil de livres aussi
ouais.
dans ses livres, des petites références.
Ah oui, ça c'est
l'album Chien
de Jörn Gerner.
C'est ça.
Ouais, exact.
Illustré, qui est très beau aussi.
Elle s'amuse un peu. Et c'est un très beau chien en plus pour les gens qui aiment les chiens, c'est un beau basset. Et voilà. Et vous aviez un deuxième coup de cœur aussi, j'ai cru voir, il me semble.
Oui. Et c'est La Maison Feuille. On continue dans des belles albums colorés. La Maison Feuille qui est écrit de... Alors, l'écriture de Hong Kyung Park est illustrée par Sun Jung-soo.
Est-ce que ça serait coréen, par
exemple? Oui, ça sonne un peu coréen.
Ça doit être votre accent.
C'est ça,
oui.
Exactement.
Ah oui.
C'est publié chez Mango Jeunesse et c'est un grand album qui est une très belle édition. C'est une histoire d'une petite feuille d'automne qui va servir de refuge à plusieurs petits animaux, petits insectes. Et ça commence par un scarabée qui trouve une jolie maison pour l'hiver, pour hiberner. Et on va, au fil des pages, découvrir en fait tous les petits animaux, de petits insectes qui vont vouloir toquer à la porte de la nouvelle maison du scarabée. Et ils vont devoir s'accepter les uns les autres, même s'ils font un peu peur, comme cette grosse araignée qui n'a pas l'air très sympa, mais qui finalement va finir par s'accepter. Et on va suivre toutes les saisons, et l'album en fait change vraiment de couleur aussi au fil de ces saisons-là. On a des tonalités qui sont plutôt grises au début, et après... et orangé, et on va
vers la lumière.
Voilà, le printemps va arriver et secouer toute cette petite bête. Et il y a un travail de crayon aussi, crayon gris, et mélangé à la couleur qui est vraiment super beau et très éclatant à la fin.
Un très bel album à découvrir.
Mango revient.
Mango a jamais arrêté.
Non.
Ils ont une production assez maîtrisée. Ils avaient fait beaucoup de livres d'activité,
De
documentaires. Et c'est vrai que les albums, ils avaient un peu lâché pendant quelques années. Et là, ils reviennent avec quelques albums. Ça fait 2-3 ans qu'ils... Alors, de manière très, très respectueuse de la production, pour le coup. Hein. C'est un ou deux albums. On sent que c'est des gros coups de cœur. C'est plutôt des achats.
Mm-hmm.
Et c'est vrai que cet album est magnifique. Donc,
Et puis, c'est un texte qui est assez long aussi. Donc, on peut prendre son temps pour lire... avec l'enfant et le lire et le relire.
Voilà. Ben merci beaucoup, Lucille.
Merci.
Et l'heure passe déjà et il est déjà l'heure du générique coup de cœur. Oh yeah. S'appelle Le Petit Renard. C'est un livre écrit par Céline Persson, illustré par Cédric Apt, et c'est publié chez Kaléidoscope. Depuis quelque temps, à la nuit tombée, Un petit renard quitte la prairie et s'avance sans crainte vers la piste d'atterrissage. Tranquillement, il regarde les derniers avions se poser, puis les passagers sortir de l'appareil, un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'équipage. Tout comme ces gens qui patientent dans le hall de l'aérogare, le renard semble attendre quelqu'un. Les voyageurs, eux, se hâtent. C'est normal, ils sont impatients de mener leurs affaires, de retrouver leur famille, leurs amis. Ils ne prêtent pas attention au petit renard assis sur l'asphalte. Plusieurs jours et plusieurs nuits passent ainsi. Et chaque soir, le petit renard revient. Il reste là jusqu'à l'aube, attendant que tout le monde soit parti, et veillant sur les avions endormis. Puis il s'en retourne vers sa prairie, parmi les hérissons, les lapins et les chauves-souris. Un soir, alors qu'il se croise seul sur le tarmac, un mécanicien aperçoit la silhouette gracile de l'animal. Prudemment, l'homme s'approche, s'accroupit et demande « Que fais-tu ici ?» Il ajoute « Ne t'inquiète pas, je ne te veux aucun mal. » Mais à sa grande surprise, le petit renard ne semble pas effrayé. Sous le ciel étoilé, le mécanicien sourit. Quel moment parfait pour se rencontrer. Le petit renard ne parle pas la langue de l'homme, mais il sent qu'il a trouvé un ami. Le mécanicien ne parle pas la langue du renard, mais il sait lire dans son regard. Alors quand l'homme annonce « Il faut que je retourne travailler », tout naturellement, le petit renard le suit. En un instant, leur complicité est née. De temps à autre, le mécanicien joint la parole au geste pour expliquer son métier au renard. Les vérifications, les réparations et toutes ces choses un peu compliquées. « Tu veux voir comment c'est à l'intérieur ?» propose-t-il soudain à son nouvel ami. Alors sagement, le petit renard s'aventure dans la cabine d'un gros porteur. Il déambule dans l'allée centrale, s'installe confortablement sur un siège. Par le hublot, il voit tomber quelques flocons de neige. Puis il est temps pour le mécanicien de rentrer se coucher. Et pour le petit renard de regagner son terrier. Mais demain soir, c'est sûr, il reviendra pour regarder les avions. Et surtout pour retrouver son compagnon. « Dors bien, joli petit renard, » dit le mécanicien en s'éloignant. « Dors bien, mécanicien, » répond le petit renard en inclinant la tête doucement. Chacun repart de son côté, portant dans son cœur la joie de cette nouvelle amitié. Depuis cette nuit-là, le renard et le mécanicien se rejoignent tous les soirs, après le dernier atterrissage, à l'abri du monde entier. Toutefois, un jour, l'homme ne voit pas le petit renard. Il le cherche derrière chaque avion, en vain. Alors il marche à pas pressés vers la prairie, mais là non plus, aucune trace de son compagnon. Puis, guidé par le vol d'un martinet noir, il distingue deux oreilles pointues qui dépassent de derrière un buisson. L'homme sait que quelque chose est arrivé. Il se précipite, sentant son cœur battre à tout rompre, et découvre le petit renard recroquevillé. Avec beaucoup de tendresse et de délicatesse, le mécanicien prend l'animal dans ses bras et lui dit simplement « Je suis là ». Sans aucune résistance, en toute confiance, le petit renard se laisse porter. Dans la voiture, il se sent en sécurité. Le jour se lève lorsque le petit renard se réveille au crépitement apaisant d'un feu de bois. Assis près de lui, le mécanicien a posé sa main sur la tête de son ami. Il explique « Ma voisine est vétérinaire. Elle a pris soin de toi. Tout ira bien maintenant. Je ne te quitte pas. » Les orchidées sauvages qui bordent l'aéroport ont fleuri quand le petit renard retrouve les herbes hautes de sa prairie. Dans le crépuscule de ce début de printemps, un homme commence son travail de nuit, et juste devant lui, de son pas tout doux, l'accompagne désormais un petit renard roux. Cet album, Le Petit Renard, est inspiré d'une histoire vraie. Histoire vraie entre un vrai renard à l'aéroport d'Orly et un mécanicien qui se sont laissés approcher l'un l'autre. Le renard s'est fait photographier par l'humain et on a ces photos en fait à la fin de l'album. Et voilà, ça a donné cet album qui est un très bel album. Le Petit Renard de Céline Persson, illustré par Cédric Apt. Et il faut reconnaître que le dessin de Cédric Apt est vraiment très très joli sur cet album. Allez, pour changer un peu d'ambiance, on va écouter un peu de musique. Et là, cette fois-ci, on va écouter le groupe Pale Grey. Sont des Belges qui viennent de sortir leur troisième album. Et donc, eux, on va les retrouver aux Trois Éléphants le samedi soir, si je ne me trompe pas. Et là, on va écouter Seasons. C'était donc Seasons de Pale Grey, voilà, ce groupe belge qui vient de sortir son troisième album. Et vous allez voir, ce sera un très beau concert à la fois délicat, mélancolique, sorte de dream pop. Il y a quelques passages un peu plus hip-hop aussi. Enfin, voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce groupe belge pendant les Trois Éléphants. Allez, il nous reste peu de temps, à peine 10 minutes. On va parler un petit peu de roman maintenant. Je crois que Véro, vous avez plusieurs coups de cœur.
Bah, j'ai les Weirdos.
Alors, c'est quoi les Weirdos ?
Les Weirdos, c'est W-E-I-R-D-O-S de Monica Sabolo et illustré par Mathieu Sapin. On trouve bien
Très rigolo.
Très rigolo et très proche. Enfin, là, on se croit aussi dans ces BD. Et les Weirdos, eh ben, c'est une bande de potes un petit peu malgré eux parce que c'est ce qu'on peut voir un peu parfois dans la littérature habituellement, un peu les laissés pour compte, ceux qui ne sont pas...
Bah c'est les bizarres, hein, les weirdos en anglais. Hein.
Ah, c'est ça que ça veut dire
Quand on dit weird, c'est ceux qui sont bizarre. Un peu... C'est les bizarres, les étranges, ceux
ouais,
qui ne sont pas comme...
pas comme les autres. Voilà.
Et les weirdos, le OS, du coup, ça rajoute... comme les cassos ou les machins, c'est les weirdos, quoi.
Voilà, donc c'est Zoé qui va nous les présenter, parce que Zoé, elle se trouve très, très nulle. Elle se trouve à côté de la plaque la plupart du temps. Mais quand elle est agressée par les... Alors, comment on dit les filles qui sont dans...
Les populaires.
Les populaires, voilà, c'est ça. Parce qu'elle est souvent agressée comme ça. Elle s'imagine tout de suite, elle se projette dans la jungle. Et ça va beaucoup mieux. Elle a vraiment ses petites recettes comme ça pour vivre une vie parallèle. Et elle va rencontrer des personnes qui sont un peu comme elle, qu'elle va appeler les Weirdos. Enfin, le Weirdo numéro 1 qui est Neil, c'est un garçon très beau mais très sombre, qui ne parle à personne. Le Weirdo numéro 2, tout le temps en jogging, tout le temps silencieux, jamais entendu le nom de sa voix ni vu ses cheveux parce que capuche. La Weirdo numéro 3, c'est Yukiko, elle ne parle jamais non plus. Voilà, avec une toute petite voix comme ça, on ne comprend rien de ce qu'elle dit. Elle vit derrière un rideau de cheveux. Et Weirdo numéro 4, c'est elle, Zoé, c'est moi. Et il se trouve qu'ils vivent leur vie quand même comme ils peuvent au collège. Ils essayent de s'entretenir. s'entraider, pas s'entretuer, s'entraider, c'est mieux.
C'est mieux.
Et il se trouve qu'il y a eu une sortie au Jardin des Plantes. Alors, ce livre a été écrit près du Jardin des Plantes. Moi, j'ai une petite faiblesse pour ce lieu, même si c'est un zoo traditionnel au départ. Mais, et donc, ils vont au Jardin des Plantes. Et là, toute la classe se plante devant un énorme crapaud très, très moche, se moque de lui. Enfin, voilà. Donc, évidemment, ils sont pleins d'empathie pour ce crapaud. Il y a une baston. Voilà, ils essayent de défendre ce crapaud. Enfin, ça se passe pas bien. Et ils s'aperçoivent que le père de Niels, c'est le directeur du zoo, quoi. Et puis la maîtresse, elle est un petit peu amoureuse aussi du père de Niels. Donc il y a plein de petits clins d'œil très drôles comme ça, de rapport humain, on va dire. Et alors, par contre, Zoé se trouve que moi aussi, j'aurais été épatée d'avoir un copain, un pote, dont le père est quand même propriétaire, mais gérant du zoo. Et grâce à ce zoo, grâce à ce crapaud, qu'ils vont essayer de libérer aussi de sa condition, ils vont aussi trouver du sens à leur vie. Et ça va être une histoire très sympa. Je trouve quand même que les personnages marginaux, enfin, c'est pas marginaux, c'est weirdos, enfin, j'ai pas bizarre, sont vraiment bien représentés. Ils sont très attachants. Il y a quand même, ça va crescendo au niveau du texte. Il y en a très peu au début, beaucoup de dessins. Et puis après, il y a des petits pavés. Et voilà, ça se dévore. On met très peu de temps à le lire, mais c'est réjouissant. Réjouissant par ces temps de malveillance qu'on peut rencontrer parfois au collège ou au lycée.
Vous nous rappelez les auteurs ?
Alors, Monica Sabolo, apparemment auteur adulte, son premier livre jeunesse, autrice adulte, pardon, et Mathieu Sapin, un grand illustrateur devant l'éternel.
De bande dessinée, beaucoup.
Ouais. Voilà. On est chez Gallimard.
Génial. Il paraîtrait que vous avez aussi coup de cœur, mais pour les plus grands.
J'enchaîne.
Allez.
Blue et les grands jours maudits de Nancy Guibert, aux éditions courtes et longues. On est chez Supernova, je voulais absolument en lire un parce que ça fait un petit moment qu'ils sortent cette collection de romans. Blue est avec Ziane, sont des orphelins, ils sont dans un institut, un orphelinat, avec une directrice qui est épouvantable, vraiment dans une situation bien glauque et tout. Et un jour, elle se fait adopter. Alors, elle supplie qu'on emmène son frère de cœur, Ziane, avec elle, par une famille très bourgeoise. Alors, ça se passe quand même, à mon avis, début du 20e. M'a l'air d'avoir des freluches et des longues robes et des choses comme ça, on n'est pas sûr quand même. Et donc cette famille a l'air de l'adorer, ils sont très très fiers de l'adopter. Elle se retrouve dans un luxe absolu et c'est bizarre parce que elle a vu passer un chat comme dans ses rêves et ce chat lui parle, se met à lui parler et va l'amener vers un monde parallèle qui se trouve dans le jardin de ces personnes et un monde parallèle qui se trouve, il y a des fées, il y a des animaux et c'est une sorte de congrégation qui essaye de sauver les œuvres d'art et les textes aussi parce que ces œuvres sont en danger. Et je vous en dirai pas plus, mais les bons sont pas toujours les bons. Voilà ce que je peux dire. Ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est qu'on a deux dimensions. On a une réalité et puis on a un monde proche de la fantaisie. Et c'est surtout, on va parler des œuvres d'art. Il va y avoir des clins d'œil, il va y avoir des allusions à ces œuvres. On n'a qu'une envie, rien que quand on tombe sur la description d'un détail d'une œuvre d'art, c'est d'aller voir cette œuvre. Donc j'ai souvent fait des petits allers-retours sur Internet pour aller voir de quoi il parlait. Il y a une invention de... Alors, c'est même pas une invention de mots, j'ai été vérifier certains, ça paraît complètement incroyable, mais Blue va parler avec des mogigraphies, des très vieux mots qu'elle ramène à la vie et qu'elle met dans... Lorsque tu parles d'âme acagnante, je ne t'écoute pas, tes oxymores moroses et tes pâles pléonasmes n'ont aucun effet sur moi. Alors, oxymore pléonasme, on connaît quand même un peu, là, il y a les explications quand même en dessous, mais ça va être aussi des mots, mais complètement oubliés. On devine un peu le sens, extrêmement poétique, et donc on plonge dans des mots comme ça, on va être happé de temps en temps par des tableaux aussi. J'ai rarement lu quelque chose de semblable. C'est pour moi, c'est nouveau, même si, on voit les univers de fantasy et tout, mais il y a des choses très, il y a un ton nouveau, quoi. Il y a quelque chose de nouveau. Et aussi, ça parle de l'art et ça donne envie.
Voilà. Il n'y en a pas tant de livres que ça qui parle de l'art pour les
ados. C'est pas mal du tout.
Merci beaucoup, Véro, pour ces nombreux conseils. Ben moi, juste avant qu'on referme cette émission qui est déjà bientôt finie, j'ai aussi deux, trois livres à vous présenter. D'abord, un petit roman ado. Ce roman ado s'appelle Le silence est à nous. C'est le nouveau roman de Colline Pierret qui, cette fois-ci, est sorti chez Flammarion. Et moi, j'avais déjà adoré En couple de Colline Pierret qu'elle avait écrit pour les ados. Et elle revient donc avec un roman pour cette catégorie d'âge du young adulte, de l'ado, avec un roman très, très fort. Alors déjà un roman écrit en vers libre, c'est vrai que maintenant on a l'habitude, il y a plusieurs autrices qui l'ont fait, mais c'est toujours aussi agréable. Enfin, moi j'aime beaucoup cette écriture qui est une écriture du coup dynamique, avec un rythme de lecture qui diffère du texte classique, et c'est le premier de Colline Pierret, je trouve que ça lui va très très bien. Et puis il y a aussi la thématique qu'elle aborde, on sait qu'elle aime toucher les sujets de l'adolescence, mais aussi de l'amour, de l'autre, du couple, vraiment de l'intime en fait, de l'adolescence. Et là, cette fois-ci, elle s'attaque à un sujet qui est assez chaud, hein, ma foi. C'est, en gros, on va suivre l'histoire de Léo. Léo, c'est une jeune fille qui est très discrète, en tout cas qui a du mal à s'affirmer. Et un jour, elle est témoin d'une scène qu'elle n'aurait pas aimé voir, qu'elle n'aurait pas voulu voir. En gros, il y a un couple qui est plutôt un couple populaire, en tout cas plus qu'elle, dans un coin du lycée, et elle surprend le garçon à agresser en fait la jeune fille. Et quand elle voit ça, elle aimerait se voir être celle qui se rebelle contre ça, qui dénonce tout cela, qui porte la voix, mais sa seule réaction, c'est de ne pas faire de bruit et de repartir, comme si elle n'avait rien vu. Et ce silence, en fait, elle le porte en elle. Alors, il y a ce côté-là qui est très, très fort, déjà, de... Voilà, quand on voit quelque chose, est-ce qu'on en parle ? Et puis, finalement, elle va réussir à se rapprocher de Mariam. Mariam, c'est la jeune fille qui a été agressée. Et qui n'a rien dit non plus sur le coup. Et donc, c'est leurs deux silences qui vont un peu se... Voilà, elles vont se comprendre à demi-mot qu'elles savent l'une l'autre. Et elles vont décider de parler. Et là, le silence se rompt. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on parle, quand on est une jeune fille qui dit « je me suis fait agresser ». Et ce roman est assez fort et assez dur, dans le sens où, notamment, il y a un personnage qui est le personnage du proviseur, qui représente un peu l'homme de pouvoir, qui n'écoute pas, en fait, une jeune femme. Donc, on peut... Là, c'est le proviseur, mais ça pourrait être tellement de personnes dans la société. Et il y a ce rapport, justement, à la... Il faut que les femmes parlent des agressions qu'elles subissent, mais qui est là pour les écouter ? Et je trouve que d'aborder ça dans un roman pour ados, c'est extrêmement audacieux. Parce qu'évidemment, les conséquences de leur aveu, enfin de leur, du fait qu'elles parlent de cette agression, vont être multiples. Et elles peuvent être un peu à contre-escient. Enfin voilà, donc c'est...
En danger aussi.
Ouais, c'est un très beau livre qui joue vraiment sur la nuance. Effectivement, c'est pas parce que les femmes vont parler que tout va s'améliorer et que l'écoute qu'elles vont avoir est difficile. Ça aborde ça. Ça aborde vraiment ce qu'est la société aujourd'hui. Ce pourquoi elle devrait changer aussi. C'est un très beau livre, très fort. Moi, qui m'a vraiment ému. Voilà, Colline Pierret, je trouve qu'elle a cette force comme ça d'écrire sur des sujets en faisant venir l'émotion là où on ne l'attend pas forcément. Et faire réfléchir surtout. Donc j'espère que ce livre fera réfléchir plus d'un et ses proviseurs qu'ils vont tous dégager très très vite. Enfin voilà, lisez-le, ça s'appelle Le silence est à nous, le nouveau livre de Colline Pierret, publié chez Flammarion.
Très beau titre.
Très beau titre, très belle couverture.
Très belle couverture.
Ouais, j'espère que c'est un livre qui marchera parce qu'il a besoin d'être lu. Et puis voilà. On arrive à la fin déjà. On va parler juste d'une petite BD vite fait parce que c'est quand même c'est important de parler de bande dessinée. On en parle tout juin. J'ai choisi un petit coup de cœur, un petit truc réchauffant pour nous. Voilà. Vous savez que on a parlé des prix en début d'émission. Hein. On adore Marion Bredin, on adore les prix sorcières. Et ben on adore aussi Anouk Ricard. Anouk Ricard a été récompensée par le Grand Prix d'Angoulême en fin janvier. Et on était trop contents. Vous en a déjà parlé. Et je voulais revenir sur une de ces BD cultes en fait qu'elle a fait pour les enfants parce qu'elle a travaillé aussi pour les enfants. C'est Anna et Froga. Anna et Froga, ce sont ces deux personnages. Donc là, cette jeune fille Anna et cette petite grenouille Froga qu'on va suivre dans des aventures. Alors, à l'époque, il y avait eu 3 albums, je crois, d'Anna et Froga. En tout cas, cinq albums.
On l'avait eu au prix
Bulgum. 5 albums d'Anna et Froga. Eh bien, ce petit livre, qui est un peu le format d'un roman, d'un gros roman, prend les 5 albums d'Anna et Froga.
D'accord.
C'est la compile générale, l'intégrale, en fait, d'Anna et Froga, avec une petite histoire en plus. Et on retrouve avec tellement de plaisir les deux personnages, leurs petites aventures. C'est drôle, c'est con, comme d'habitude avec Anouk Ricard.
Oui,
ça fait du bien, c'est absurde, voilà. Et j'adore, dans Anna et Froga, il y a les dessins classiques qu'elle fait, et puis il y a toujours des petites peintures, en fait, qui viennent...
En double page, oui.
Ouais, c'est ça, un peu enrichir un peu ces albums-là. Donc voilà, si vous aimez l'humour un petit peu débilos ou bien très absurde, je vous conseille de découvrir Anna et Froga. C'est sorti il y a maintenant une quinzaine d'années, mais ça n'a pas vieilli.
Ça vient de sortir, le format.
Et la compile vient de sortir, d'accord, effectivement, avec le beau sticker, le Grand Prix d'Angoulême et tout ça. Donc découvrez l'œuvre d'Anouk Ricard, comme celle de Marion Brunet, comme tous les auteurs dont on a présenté, qu'on aime beaucoup. Et voilà, les filles, c'est déjà fini.
Oh.
Merci, Lucille, de nous avoir accompagnées sur cette émission.
Merci,
Lucille.
Merci. Merci, Véro, pour tous ces beaux conseils que nous a donné le vrac à tout va. Merci, évidemment, Philippe, pour la régie et le son parfait. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez.
Oui,
j'espère que vous prenez beaucoup de plaisir à écouter cette émission, au moins autant que nous, et de la faire. Et puis, si vous aimez ça, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission, plein de nouveaux coups de cœur. Puis entre-temps, n'hésitez pas à partager l'émission, à la faire découvrir au plus grand nombre, parce qu'on aime bien que notre émission soit écoutée. Hein. Autant qu'elle soit écoutée.
Oui.
Allez, lisez bien, passez un très beau mois d'avril et nous on se retrouve pour le mois de mai. À bientôt.
À bientôt.
Ce soir, je vais rester seul. J'ai beaucoup d'ennuis, donc ce soir, je vais rester seul. J'ai peur parfois, bien trop souvent, le cœur qui bat maladroitement. Personne m'a prévenu que ce serait difficile d'être moi-même. Je n'ai pas la main mise sur mes sentiments. J'hésite parfois, bien trop souvent, le cœur qui ne sait pas trop comment. J'ai du mal à mettre des mots sur mes mots. J'en ai beaucoup. J'ai du mal à laisser couler, à laisser tomber. Encore une fois, une de ces nuits où j'ai du mal à combler le vide. Encore une fois, une de ces nuits où j'ai du mal à rester lucide. J'ai très peu dormi, j'ai du mal à fermer l'œil. La tête bien remplie, mais de tant de choses inutiles, faut que je fasse le tri. J'ai peur parfois, bien trop souvent, j'ai perdu la notion du temps. Personne m'a prévenu que ce serait difficile de rester soi-même. L'impression toujours être à contre-courant. J'hésite parfois, je me demande souvent, est-ce que mon cœur bat-il vraiment? Au final, tout ça, ce n'est que des mots. Peut-être que j'en fais trop. J'ai du mal à laisser couler, à laisser tomber. Encore une fois, une de ces nuits où j'ai du mal à combler le vide. Où j'ai du mal à rester lucide. Encore une fois, c'est l'insomnie. Je t'en prie la nuit. Ce soir, je vais rester seule.